Cicéron, Lettres à Ticus, lettre 18. Sachez que rien ne me fait plus faute aujourd'hui qu'un confident à qui je puisse dire tout ce qui me pèse, qui m'écoute dans son amitié, qui me conseille dans sa sagesse, avec qui enfin je n'ai en causant à feindre, à cacher, à dissimuler rien. Mon frère n'est plus là, mon frère dont le cœur est si droit et si chaud. Métellus n'est pas un homme, c'est un rivage désert, c'est l'air des cieux, c'est la solitude profonde. Et vous, dont les sages réflexions ont si souvent adouci l'amertume et les soucis de mon âme, vous que j'ai toujours eu à mes côtés dans les affaires publiques et qui êtes un second moi-même pour mes affaires privées, vous enfin, l'âme de tous mes entretiens et de tous mes projets, mais où êtes-vous? Oh, je me sens tellement abandonné que les seuls moments qui me reposent sont ceux que je passe avec ma femme, avec ma fille chérie, avec mon charmant petit Cicéron. J'ai des amitiés politiques, toutes extérieures, toutes fardées, bonnes seulement pour le relief de la vie publique, mais nulles au sein du foyer privé. Aussi, lorsqu'à l'heure matinale, ma maison regorge de clients, lorsque je descends au forum, pressé par les nombreux amis qui m'escortent, je cherche en vain dans cette foule avec qui rire en liberté ou gémir sans contrainte. Je vous attends, je vous désire, je vous appelle. J'ai mille sujets qui m'inquiètent et me tourmentent, et quand une seule conversation, si une fois je vous tiens, nous aurons bientôt, j'en suis sûr, parcourus et épuisés. Je passerai ici sous silence mes chagrins et mes soucis domestiques. Ce n'est pas à une lettre ni à un messager inconnu que j'oserais les confier. Oh, n'allez pas pourtant vous monter la tête. Mon mal n'est pas intolérable. Ce sont de ces ennuis qui restent, qui pèsent, et qui sont sans relâche, faute d'un ami qui vous console ou qui vous parle. Quant aux affaires publiques, le courage ne me manque pas. Seulement, la volonté d'agir m'abandonne. Pour peu que je vous raconte ce qui s'est passé depuis votre départ, vous allez vous écrier que la République est perdue. Et à peine étiez-vous en route que la série de nos maux a commencé. C'est Claudius, si je ne me trompe, qui a ouvert la scène. Je crus l'occasion belle pour refréner la libérance et arrêter la jeunesse. Et cédant à l'ardeur qui me dominait, je déployais tout ce que j'ai de puissance dans le cœur et la tête, sans animosité personnelle et avec la seule espérance de remettre la République en bonne voie et de rendre la Constitution sa vigueur. La vénalité et la prostitution se sont réunies pour accabler l'État d'un jugement funeste. Voyez ce qui a suivi. Un consul s'est rencontré que personne, s'il n'est philosophe comme nous, ne peut voir sans pousser un soupir. Mais quelle plaie qu'un pareil homme! Mourant un sénatus consulte contre la brigue et la corruption, mais on ne peut pas obtenir une loi pour le sanctionner. On vilipende le Sénat. L'ordre des chevaliers s'en sépare. Ainsi, cette année, aura vu renverser à la fois les deux bases solides sur lesquelles j'avais à moi seul assis la République. Elle a jeté bas l'autorité du Sénat et des deux ordres fait deux camps. La nouvelle armée, la nouvelle année nous en promet aussi de belles. Les mystères sacrés de la jeunesse n'ont pu s'accomplir. Même Mius, ayant initié la femme de Marcus Lucullus à ses propres mystères, Ménélas se fâche et divorce. Mais le pasteur Dida n'avait outragé qu'un des deux frères. Le Paris d'aujourd'hui s'en est pris à la fois à Ménélas et Agamemnon. De plus, il y a certains Caius et Régnus, tribuns du peuple, que peut-être vous ne connaissez pas, mais que vous pouvez connaître, car il est de votre tribu, et Sextus, son père, y était le distributeur d'argent. Et Régnus, donc, veut faire agréger Claudius parmi les plébéiens. Et il le propose au suffrage de tout le peuple en assemblée du Champ de Mars. Je l'ai traité au Sénat comme je sais traiter les gens. Mais c'est une nature où rien ne fait. Métellus est un consul hors de ligne et qui m'est dévoué de cœur. Mais il s'est fait tort en acceptant le mode proposé pour le jugement de Clodius, sans y attacher d'ailleurs aucune importance. Quant au fils d'Aulus, quel soldat lâche et sans cœur, Dieu immortel, et qu'il mérite bien tout ce que Pallicanus lui jette chaque jour d'injures à la face. Une loi agraire a été proposée par Flavius. Elle est bien pâle. C'est un peu de chose près de la loi Plotia. Mais où trouver dans tout cela même l'ombre d'un homme vraiment politique? Oh, il y en a bien un qui est de mes amis, afin que vous le sachiez. C'est Pompée, mais il se contente de jouir en silence de sa belle robe peinte. Crassus ne dirait pas un mot contre un homme en crédit. Vous connaissez le reste. Pauvres niais qui croient qu'ils auront encore leur vivier quand il n'y aura plus de choses publiques. Nous n'avons plus qu'un homme qui s'en inquiète encore, et selon moi, avec plus d'énergie, de probité que de sagesse et d'esprit de conduite, c'est Caton. Caton qui, depuis 3 mois, tourmente ces malheureux publicains qui lui étaient si dévoués et empêche le Sénat de statuer sur leurs demandes. D'un autre côté, toute autre affaire reste en suspens jusqu'à décision sur celle-là. Je crois même que cette circonstance fera ajourner indéfiniment les légations. Vous voyez maintenant au milieu de quels flots agités nous vivons. Et par ce que je vous dis, pénétrant comme vous l'êtes, vous jugerez de ce que je ne vous dis pas. Songez donc à revenir enfin, et bien que l'attrait du retour ne soit pas grand, j'espère que vous m'aimez assez pour trouver dans mon amitié un dédommagement aux ennuis qui nous attendent ici. Je veillerai pourtant où besoin sera à ce qu'on ne vous considère point comme absent. Mais n'arriver qu'au moment de la cérémonie expiatoire, ce serait là du traitant tout pur. Arrangez-vous donc pour ne nous plus faire languir.